Chapitre 23. Le chapitre 23 des actes vus sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 23 des actes n'est pas simplement un rapport relatant la division du Sanhédrin, un complot d'assassinat ou le processus d'escorte. Ce chapitre montre comment l'évangile de l'eau et de l'esprit s'assure la voie du témoignage sans s'arrêter, même au milieu des tribunaux, de la politique et du pouvoir religieux. Les événements historiques de ce chapitre témoignent clairement de la façon dont une personne qui possède l'évangile, où le problème du péché est déjà éliminé, maintient l'assurance et la direction de la mission même au sein d'une structure hostile. Actes, chapitre 23, versets 1 à 5, la déclaration de conscience devant le conseil, sur l'attitude pleine d'assurance de celui dont la condamnation a pris fin. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient auprès de lui dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Paul fixe ses regards sur le Sanhédrin et déclare « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Cette confession n'est pas une auto-louange affirmant que ses propres actes sont justes, mais la conviction de la foi que la condamnation et le jugement du péché ont déjà pris fin au sein de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour celui qui connaît l'évangile, la conscience n'est pas un outil pour laver le péché, mais devient un canal saint témoignant de l'état d'avoir déjà été purifié par le baptême que Jésus a reçu de Jean et par le sang de la croix. Par conséquent, Paul n'a pas reculé même devant la menace injuste du souverain sacrificateur et a pu annoncer avec assurance uniquement la vérité. Actes, chapitre 23, versets 6 à 10, la déclaration de la résurrection sur la proclamation de la preuve finale de l'élimination accomplie du péché. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Tandis que les pharisiens affirment les deux choses, il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé ?» Comme la discorde allait croissant, le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Paul, sachant qu'une partie d'entre eux était des sadducéens et l'autre partie des pharisiens, s'écrit dans le Sanhédrin en disant « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Cette déclaration n'est pas simplement de la sagesse pour échapper à la situation, mais un témoignage qui transperce le cœur de l'Évangile. C'est parce que la résurrection est le résultat public par lequel Dieu a confirmé que l'élimination du péché a été complètement accomplie après que Jésus a pris en charge les péchés du monde par le baptême au fleuve Jourdain et a reçu le jugement du péché sur la croix. Paul a déplacé le centre de la dispute des questions périphériques de la loi vers la résurrection, qui est l'achèvement du salut. Actes, chapitre 23, verset 11, le réconfort du Seigneur. La confirmation du témoignage, non pas la sécurité du ministère. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Cette nuit-là, le Seigneur apparaît à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Ce réconfort n'était pas une promesse d'éliminer la tribulation ou une garantie de sécurité physique. C'était une déclaration confirmant la mission, qui a confirmé que la voie du témoignage que Paul avait parcourue était juste et a rendu clair le fait que la scène du témoignage vers laquelle il doit avancer à l'avenir est Rome. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'appelle pas le croyant au confort, mais le conduit jusqu'à la fin vers le lieu de la mission où il doit témoigner de toute sa vie. Actes, chapitre 23, versets 12 à 15, le complot d'assassinat sur la résistance du système religieux rejetant le salut accompli. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent de tuer Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient de plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés, avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. » Lorsque le jour se lève, les Juifs forment un complot et font le serment en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Et ceux qui ont formé un complot comme celui-ci sont plus de 40. Leur folie collective était une résistance désespérée du système religieux contre l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui nie le mérite humain et l'autorité religieuse, allant au-delà d'une simple colère personnelle. Cela montre que le zèle religieux des humains essayant d'établir la justice par eux-mêmes produit une persécution aussi violente lorsqu'ils rencontrent la grâce de l'élimination du péché. Actes chapitre 23, versets 16 à 22, la providence de Dieu sur la protection détaillée par des voies quotidiennes. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet à Pan, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. » Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Le neveu de Paul entend qu'il dresse un guet-apens, vient et entre dans la forteresse et en informe Paul. Paul appelle un centenier et lui commande de mener ce jeune homme vers le tribun, et le tribun garde le complot secret. L'histoire de l'évangile ne s'écoule pas toujours uniquement avec des miracles surnaturels. Dieu préserve parfois son évangile et protège la voix du témoignage par des voies quotidiennes telles que l'oreille d'un membre de la famille ou le jugement rationnel d'un tribun. Actes, chapitre 23, versets 23 à 30, l'escorte romaine, sur la légitimité de l'évangile garanti au sein de l'ordre public. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit « Tenez prêt, dès la troisième heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène, sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix salue. Cet homme dont les Juifs s'étaient en saisie allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu. Le tribun appelle 200 centeniers et leur commande de préparer 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée à la troisième heure de la nuit et envoie une lettre au gouverneur Félix. La lettre contient le contenu suivant. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. C'était la preuve montrant que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas un mouvement illégal perturbant la société, mais une vérité universelle et légitime, sans le moindre défaut, même au sein de l'ordre juridique du monde. Actes, chapitre 23, versets 31 à 35, l'arrivée à Césarée sur l'expansion vers une scène de témoignage plus vaste. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Les soldats prennent Paul de nuit et arrivent à Antipatris, et le lendemain laissent les cavaliers escorter Paul, remettent la lettre au gouverneur et présentent Paul devant lui. Le gouverneur dit « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus, et ordonne qu'on le garde dans le prétoire d'Hérode. » L'interrogatoire qui a commencé au sein du pouvoir religieux étroit de Jérusalem est maintenant déplacé vers la résidence du gouverneur appelé Césarée et s'élargit vers une scène de témoignage plus vaste en direction de Rome. En conclusion, le chapitre 23 des Actes déclare que celui qui possède l'évangile de l'eau et de l'esprit ne perd pas la liberté de conscience et l'assurance de la mission dans aucune situation hostile. Dieu utilise harmonieusement les miracles et la vie quotidienne pour protéger son témoin. Et l'Évangile avance vers un lieu plus public et plus vaste alors qu'il traverse la persécution. Le fait que celui qui possède le salut accompli n'est jamais isolé, mais est inévitablement déplacé vers le prochain lieu de témoignage au sein de la providence de Dieu, est la structure historique fondamentale du chapitre 23 des Actes. Un sermon de Paul Sijong. La parole du chapitre 23 des Actes, versets 1 à 35, est un récit montrant comment l'Évangile avance tout en recevant la protection de Dieu même au milieu d'un tribunal hostile, d'un complot secret et de calculs humains méticuleux. En lisant ce texte du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'esprit prêché par le pasteur Paul Sijong, la scène du procès de Paul va au-delà d'un simple drame politique et devient un magnifique chapitre de témoignage révélant avec quel centre inébranlable se tient un témoin qui possède le salut déjà accompli. Paul a fixé ses regards sur le Sanhédrin et a dit avec assurance « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu ». Cette assurance n'était pas l'affirmation de sa propre innocence, mais la véritable liberté de conscience que seule une personne dont le problème du péché a été complètement éliminé peut avoir. Une personne qui connaît l'évangile de l'eau et de l'esprit peut se tenir avec confiance sans perdre son centre devant n'importe quelle menace, parce qu'elle se tient sur la conviction que Jésus-Christ a pris en charge nos péchés au fleuve Jourdain, a reçu le jugement de ses péchés sur la croix, et que le Saint-Esprit en rend témoignage. Paul, sachant qu'une partie du Sanhédrin était composée de Sadducéens et l'autre de Pharisiens, s'est écrié « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement ». Cette déclaration n'est pas simplement une tactique pour échapper à une crise, mais révèle l'espérance de la résurrection, qui est le cœur de l'Évangile. La résurrection n'est pas une nouvelle qui réconforte les émotions humaines, mais un jugement proclamé par Dieu selon lequel le prix du péché a été complètement payé par le ministère de Jésus-Christ. Le fait que la mort sur la croix et l'efficacité de la rédemption est due au fait que les péchés du monde ont été transférés à Jésus au fleuve Jourdain avant cela. Et la résurrection est un événement proclamant que la justice accomplie a été confirmée. Devant cette vérité, l'alliance religieuse est brisée et seule la loi du salut établie par Dieu est clairement révélée. Cette nuit-là, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Le Seigneur n'a pas donné un nouveau message à Paul, mais a reconfirmé la mission qui lui était déjà confiée. Ce qui signifie que l'évangile de l'eau et de l'esprit est une chose absolue qui ne change pas selon la situation. Dieu déplace parfois la scène du témoignage, mais il ne change jamais le contenu de l'Évangile à témoigner, et celui qui a soutenu Paul, même dans la nuit isolée, était exactement le Seigneur qui est le maître de cet Évangile accompli. Lorsque le jour s'est levé, les Juifs ont formé un complot et ont fait le serment, disant qu'ils ne mangeraient ni ne boiraient avant d'avoir tué Paul. Et plus de 40 hommes ont formé un complot méticuleux. Cependant, une telle détermination humaine ne pourrait jamais arrêter la marche de l'Évangile sous la souveraineté de Dieu. Dieu a révélé ce complot secret par l'intermédiaire du neveu de Paul, ce qui montre que Dieu protège fidèlement son Évangile, non pas nécessairement uniquement par des miracles surnaturels, mais aussi par des voies et des personnes quotidiennes. Peu importe à quel point le stratagème des méchants est méticuleux, la vie de celui qui prêche l'évangile de l'eau et de l'esprit est dans la paume de la main de Dieu. Pour protéger Paul, le tribun a préparé 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers et l'a fait transférer au gouverneur Félix à Césarée à la troisième heure de la nuit. Dans ce processus, Dieu a déplacé Paul en utilisant l'ordre juridique légitime et non un conflit armé, ce qui montre que l'évangile de l'eau et de l'esprit n'exige pas d'imprudence et qu'il élargit la scène du témoignage par la voie légitime que Dieu ouvre. La route de Paul vers Rome n'était pas une fuite, mais un processus où le grand plan de Dieu pour proclamer l'évangile accompli au centre du monde se réalisait. En conclusion, le chapitre 23 des Actes nous confirme que le témoin de l'évangile se tient avec la liberté de conscience et possède la vérité la plus claire au sein de l'espérance de la résurrection. Aucun complot ni aucune menace ne peut surpasser la providence de Dieu et seul cet évangile selon lequel Jésus-Christ a pris en charge nos péchés au fleuve Jourdain et a été jugé sur la croix nous établit comme des témoins inébranlables. Une personne qui connaît cet évangile est pleine d'assurance même au tribunal, voit l'espérance même dans la nuit de la tribulation et suit silencieusement la voix de Dieu qui œuvre au-delà des calculs humains. C'est exactement l'apparence d'un véritable témoin saisi par l'évangile de l'eau et de l'esprit, dont témoigne le chapitre 23 des Actes. Questions et réponses sur le chapitre 23 des Actes. Première. Examinerons-nous comment le témoignage de l'évangile de l'eau et de l'esprit a protégé Paul lorsqu'il s'est tenu devant le Sanhédrin au chapitre 23 et est devenu la force motrice qui l'a fait se diriger avec assurance vers Rome. La force qui a soutenu Paul lorsqu'il s'est tenu devant le Sanhédrin dans le chapitre 23 des Actes était la conviction concernant la conscience pure et la justice de Dieu obtenue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme première parole devant le conseil, Paul proclame « C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu ». Cela ne signifie pas qu'il était moralement parfait, mais signifie qu'il avait la conscience d'un juste, sans plus aucune condamnation devant Dieu, en croyant à l'évangile selon lequel Jésus a pris sur lui tous ses péchés par le baptême et a payé le prix sur la croix. Une telle assurance évangélique est devenue la source de l'autorité spirituelle par laquelle il n'a pas reculé même devant le commandement injuste et la menace religieuse du souverain sacrificateur Ananias, mais a pu plutôt l'affronter avec confiance en disant « Dieu te frappera, muraille blanchie ». De plus, la sage défense de Paul apparaissant dans ce chapitre, c'est-à-dire la mention concernant l'espérance de la résurrection, représente la puissance de vie que possède l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le fait que Paul ait lancé la résurrection comme sujet de conversation entre les pharisiens et les sadducéens n'était pas une simple stratégie pour échapper à une crise. Cela a transpercé le cœur de cet évangile accompli selon lequel Jésus a porté nos péchés par le baptême et est mort, mais a confirmé notre justification en revivant. Cet évangile a causé une dissension à l'intérieur du conseil et les a poussés à protéger Paul. Et cette nuit-là, le Seigneur apparaît à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome ». Cette promesse était le sceau du Saint-Esprit, reconfirmant que Paul est dans la mission du juste, qui est déjà libéré du péché et est devenu un avec le Saint-Esprit. En fin de compte, la force motrice par laquelle il a pu maintenir la paix et se diriger vers Rome, même devant la menace massive d'environ 40 assassins essayant de le tuer, au chapitre 23, était parce qu'il croyait à l'inévitabilité de l'Évangile. Selon laquelle l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est plus précieux que sa propre vie, doit nécessairement être propagé au cœur du monde païen, appelé Rome. La raison pour laquelle le Seigneur a commandé à Paul d'aller à Rome était parce qu'il savait qu'il transformerait même le tribunal de Rome en une chaire pour l'évangile témoignant du baptême et de la croix de Jésus qui a pris en charge les péchés de l'humanité. Ainsi, l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas seulement un bouclier protégeant le croyant au moment de la crise, mais devient une puissante énergie d'avancement faisant accomplir le plan de Dieu en surmontant l'environnement.